Troisième chapitre. Artus chez le roi Léodagan de Carmélide, il devient amoureux de Guenièvre. Les romans de la table ronde sont livres d'enseignement autant que de plaisir. Voilà comment nous y voyons que le premier soin des trois rois, après la victoire de Bredigan, avait été de former un immense monceau de butin recueilli sur les princes feudataires. Après avoir ouï messe, ils revinrent où la proie était amassée et partagèrent le butin entre ceux qu'ils savaient en avoir besoin, chevaliers et sergents, sans rien garder pour eux. Ils distribuèrent ainsi palefrois, chevaux de bataille et draps de soie, puis ils donnèrent congé à tous leurs hommes, à l'exception de ceux qui devaient les accompagner en Carmélide. Revenus dans leur foyer, les vainqueurs de Bredigan, avec la part de butin qu'ils avaient reçue, achetèrent terres, fiefs, rentes et édifices qui leur permirent de vivre à grand honneur. Ainsi doit-on traiter les soudoyers et compagnons d'armes pour en être toujours bien servis. Le jeune Gauvin avait fait tout distribuer de même après le combat livré près d'Arondelle. Leur apportèrent les citoyens de Londres tout l'avoir devant eux et tout le gain, et dirent à Gauvenet de le départir à sa volonté. Gauvenet répondit qu'il ne voulait pas s'en entremettre et que Dos de Carduel s'acquitterait mieux que lui de ce soin. « Car, ajouta-t-il, il connaît mieux que moi les pauvres et les souffreteux. » Les citoyens de Londres, l'entendant ainsi parler, s'écrièrent qu'il ne pouvait manquer d'être un prud'homme. Cependant, Artus, Ban et Bohor, accompagnés de Merlin et de 37 chevaliers, arrivaient à Carouez, en Carmélide. Ces 37 chevaliers qui doivent si bien faire devant Carouez, principale ville de Carmélide, sont 1. Antor, 2. Elphine, 3. Bretel, 4. Que le Sénéchal, 5. Lucan le Bouteiller, 6. Girflet, fils de Dos de Carduel, 7. Marais de la Roche, 8. Guinan le Blond, 9. Drian de la Forêt, 10. Bélinas l'amoureux du Castel aux Pucelles, 11. Ladinas l'amoureux de Bénoïc, 12. Landin ou Flandrin le Bret du Castel aux Dames, 13. Marais le Brun, 14. Talas le Roux, 15. Bliouat du Castel, 16. Bliobéris, 17. Barret de Carignan, 18. Méliadus le Blond, 19. Madian le Crépé, 20. Zénéas le Riche, 21. Placide le Sort, 22. Plantalis la Plaigne, 23. Christufle des Roches, 24. Aiglin des Vaux, 25. Calogrénan, 26. Gauzoin le Déraé, 27. Cab le Brun, 28. Grévy, neveu de la Dame de la Forêt sans retour, 29. Guivray de Lamballe, 30. Caédin le Bel, 31. Gorvin Cadru, 32. Claro le Lait, 33. Madian l'Orgueilleux, 34. Brinin au corps hardi, 35. Galiconde, 36. Galet le Chétif, 37. Blaris, le filleul du roi Bohor. Mais rien ne prouve mieux l'existence d'une rédaction plus ancienne que l'incertitude de cette liste dans les textes conservés. Plus loin, en effet, quand nous arrivons à la seconde et décisive bataille livrée au roi Rion, les compagnons d'Artus ne sont plus qu'au nombre de 12. La nomenclature diffère encore à 2 pages de distance. Voici le nom des 12. Girflet, Lucan, Mérogis, Gorvin, Bliouat, Bliobéris, Galiconde, le Léhardi, Calogrenan et Caédin. Je crois que la leçon la plus ancienne est celle qui porte à 37 le nombre des compagnons d'Artus et des 2 rois d'Armorique. Carouez, variable, Carouez ou Terouez. Toutes les fois que les manuscrits varient dans les noms de lieux sur la première syllabe tar ou car, nous donnons à car la préférence comme répondant mieux à ker, ville. Carouez rappelle d'ailleurs carré de l'armorique, et il n'est pas bien prouvé que, dans les laits ou récits primitifs, la Carmélide ne fût en Basse-Bretagne. Cela justifierait mieux l'aide donnée à Artus par les rois Ban et Bohor. On a déjà vu plus haut comment Lysamor de Quimper Corentin était venu faire hommage avec ses barons au roi Artus. Le roi Léodagan tenait alors conseil pour concerter les moyens de défense qu'il pourrait opposer au terrible Rion et aux 15 rois couronnés, devenus ses auxiliaires. Les chevaliers étrangers obtinrent la faveur d'être introduits. Ils avancèrent en se tenant par la main deux à deux. Ban salua le premier le roi Léodagan, et celui-ci lui ayant gracieusement rendu son salut, « Sire, dit-il, nous venons vous offrir notre service, à la seule condition que vous ne demanderez ni ne chercherez à savoir nos noms avant le moment où nous jugerons à propos de vous les dire. Autrement, nous vous recommanderons à Dieu et nous trouverons assez de gens qui nous retiendront à la même condition. » Léodagan répondit qu'il s'en conseillerait avant de répondre, et s'étant mis à l'écart avec les chevaliers de la table ronde, il leur demanda ce qu'ils pensaient de la proposition. « Vous ne courez aucun danger, » répondirent les chevaliers, « en leur accordant ce qu'ils demandent. Ils semblent vaillants et prud'hommes, cela doit suffire. » Léodagan revenant donc aux étrangers, « Seigneur, je vous retiens. Si vous faites serment de me servir envers et contre tous, tant que vous serez de ma compagnie. Mais, je vous prie, ne tardez pas trop à m'apprendre qui vous êtes, car d'aventure pourrais-je ne pas vous rendre tous les honneurs qui vous appartiennent. » Les serments échangés, les étrangers s'en allèrent par la ville et prirent leur hôtel chez Blair, un vavasseur riche et prud'homme, dont la femme sage devant Dieu et devant les hommes était appelée Lionel. Pendant ce temps, Léodagan mandait tous ceux dont il avait reçu la foi et qui pouvaient armes porter. Il employait l'or et l'argent de ses coffres pour soudoyer des hommes d'armes en dehors de ses terres, si bien qu'on vit arriver devant Carouez, le jour de l'Ascension, plus de 40 000 hommes. Nombre bien considérable, remarque le romancier, mais, ajoute-t-il sincèrement, au temps du roi Léodagan, le nombre 1000 répondait assez volontiers à celui de 500 d'aujourd'hui. Peu de jours après l'arrivée des trois rois, une partie de l'host de Rion, le puissant roi de Danemark et de la terre opâtre, se présenta devant Carouez. Aussitôt les citoyens de fermer leurs portes, de s'armer et de se préparer à la défense de leurs murailles. Chacun se pressait à qui mieux vers les remparts, attendant le signal du roi pour sortir de la ville. D'abord les chevaliers de la table ronde, sous la conduite d'Hervis d'Urinel, puis les chevaliers gardiens de Carouez, sous celle du sénéchal de Léodagan, le brave, loyal et malheureux Cléodalis. Tout à coup Merlin écarte les rois et fraye aux chevaliers étrangers un passage jusqu'à la porte. Il tenait dans sa main une bannière merveilleuse. C'était le dragon dont la queue tortillée avait une toise et demie de long. De sa gueule ouverte sortait une langue flamboyante et toujours agitée. « Ouvre la porte, » dit-il au portier. « J'attendrai l'ordre du roi. « Ouvre, te dis-je, portier de malheur !» Et, se disant, il prend le fléau qui barrait la porte, le détache, tire à lui les deux bâtons, les ouvre aussi facilement que s'ils n'eussent pas été fermés d'une bonne serrure. Cela fait, il sort, suivi des 40 soudoyés. Dès que le dernier a passé le seuil et que la porte s'est refermée d'elle-même, ils fondent sur les scènes et reprennent la proie enlevée dans la campagne. Le romancier donne le nom de scène au peuple qui reconnaissait Rion pour leur roi, aussi bien qu'aux anglo-saxons, qui tenaient alors en échec les autres rois bretons. C'est ainsi que nos chansons de geste appellent Sarrasins les Lutis et les Esclats, c'est-à-dire les Slaves et les Lituaniens. La plus puissante des hordes ennemies donnait son nom à toutes les autres, Rion est tantôt nommé roi de Danemark, tantôt roi de la terre aux géants. Mais voyant arriver une échelle de païens beaucoup plus nombreuse et conduite par 4 de leurs rois, Merlin siffle. Un vent terrible soulève aussitôt la poussière, au point d'empêcher les scènes de rien distinguer devant eux. Artus alors et ses compagnons jouent de leurs redoutables glaives et font un carnage auquel viennent bientôt prendre part les chevaliers de la table ronde, le sénéchal Cléodalis et le roi Léodagan. Car en voyant les merveilleux exploits de ces nouveaux soudoyers, Léodagan s'était hâté de faire une seconde fois ouvrir la porte pour se précipiter dans la mêlée. Les quatre rois, cependant, revenus de la première épouvante, reformèrent deux échelles de leurs gens. La première soutint l'effort des compagnons d'Artus et de Cléodalis. La seconde empêcha la bataille de Léodagan de se joindre à celle des chevaliers de la table ronde. Ainsi, vigoureusement reçus, les chevaliers de Carmélide furent contraints de reculer. Léodagan lui-même fut abattu de son cheval et retenu prisonnier. Des fenêtres du palais, Guenièvre, sa fille, entourée de ses demoiselles, voyait les païens emmener son père. Peu s'en fallut qu'elle n'en mourût de douleur. Heureusement, Merlin veillait pour lui. Il avertit les soudoyés compagnons d'Artus de fermer le chemin aux mécréants qui emmenaient prisonnier le roi Léodagan. Le délivrer, mettre en fuite ceux qui le retenaient, fut pour eux l'affaire d'un moment. Il s'agissait alors de porter secours aux chevaliers de la table ronde, cernés par 7000 scènes qui devaient les exterminer. Le dragon flamboyant les avertit de l'approche d'un secours efficace. Du haut des murs, Guenièvre vit délivrer son père, puis un des chevaliers inconnus, c'était Artus, attaquer le terrible roi Roilan et le jeter mort sur le sable. « Quel peut être, se disait la jeune princesse, ce vaillant guerrier à l'épée duquel aucun géant ne résiste ?» Tant fit le roi Artus de merveille que tous s'arrêtaient pour le regarder. La fille du roi Léodagan et les pucelles autour d'elle tendaient leurs mains au ciel et priaient le sauveur du monde de le défendre de mort et de péril. Elle pleurait la peine et le travail qu'elle lui voyait souffrir, et elle ne comprenait pas comment 6 jeunes hommes en pouvaient en faire. Ils frappaient d'Excalibur à droite et à gauche, coupaient bras, têtes, pieds et jambes, arrachaient haumes des têtes, écus des épaules, abattaient chevaliers et chevaux, faisaient tant, en un mot, que son écu était fendu et écartelé, son haume embarré et le cercle rompu. La lutte se continuait si près des murs de la ville que des fenêtres on eût pu atteindre d'une pierre le haume des combattants. Cependant, les scènes font un suprême effort. Conduits par le puissant et gigantesque roi Saffarin, ils parviennent à jeter à terre fort mal en point la plupart des chevaliers de la table ronde et des compagnons d'Artus. Léodagan est une seconde fois abattu et foulé aux pieds. C'en était fait de lui si Artus ne fût accouru, résolu de combattre le géant. Il prend une lance grande et forte, à fer tranchant, et s'en vient à l'endroit où gisait le roi de Carmélide. « Sire, lui crie le roi Ban, à qui voulez-vous donc jouter? Est-ce à ce géant 2 fois plus grand et plus fort que vous? Vous êtes trop jeune, laissez-moi ce soin-là, je suis plus grand que vous et votre aîné. Dieu m'abandonne, répond Artus. S'il m'arrive jamais d'envoyer quelqu'un combattre à ma place, plus ce géant est redoutable, plus je sens l'envie d'essayer ce qu'il vaut. Je ne saurai jamais ce que je vaux moi-même si je ne me mesure à lui. » Dès que Saffarin vit venir Artus, il s'arrêta. Tous ceux qui l'entouraient, Saines et Bretons, s'arrêtèrent également pour voir qui allait l'emporter, du jeune et petit chevalier ou de Saffarin, le plus grand et le plus fort de tous les Saines. Ils laissent courre leurs chevaux, heurtent des lances leurs écus, au point de les trouer ou les rompre. La lance de Saffarin se brise la première, après avoir atteint Artus au flanc gauche, mais celle d'Artus perce l'écu et le haubert, pénètre et traverse les entrailles. Saffarin tombe sanglant, tout étendu, sans vie. La mort du géant mit un terme à la résistance des Saines. Bienheureux ceux qui peuvent regagner la prairie d'Anneblaise, où se tenait le roi Rion avec le reste de ses hommes. Guenièvre, du haut des murs, reconnut dans le chevalier qui avait délivré son père le vainqueur du géant. « Quel peut être ce hardi champion ? » demandait-elle. « C'est, lui répondait-on, un des soudoyers nouvellement retenus. « Certes, fait-elle, quel qu'il soit, il est issu de bonne race. Jamais homme de bas parage ne montra si grande prouesse. » Les 4 rois mis en fuite et le butin partagé entre les vainqueurs, le roi Léodagan rentra dans sa ville de Carouèze et son premier soin fut de remercier les 40 soudoyers inconnus en les priant de prendre hôtel chez lui et de se réunir aux chevaliers de la table ronde. Dès qu'ils furent désarmés, la belle Guenièvre, couverte de ses plus riches draps, vint leur apporter l'eau chaude dans un bassin d'argent. Artus refusait d'accepter son service, mais il fallut que lui et les deux rois Ban et Bohor se rendissent aux instances de Léodagan. La demoiselle leur lava de ses mains le cou et le visage, puis les essuya doucement avec une fine toile. Une autre belle demoiselle, également nommée Guenièvre, et fille de la femme du sénéchal Cléodalis, remplit le même service à l'égard des autres chevaliers. Il faut raconter ici les circonstances de la naissance de ces deux Guenièvres. Vous saurez donc que le roi Léodagan avait épousé une dame de haut lignage, d'insigne vertu et de grande beauté. La dame avait amené de la terre de son père une pucelle qui n'était guère moins sage ni moins belle. Cléodalis, le sénéchal, bientôt amoureux d'elle, demanda au roi la permission de l'épouser. Devenue sa femme, elle prit place à la table des dames de la reine, toujours richement vêtue comme il convenait à son rang. Le roi ne put se tenir de remarquer sa bonne grâce et d'en devenir amoureux. Il fut longtemps sans découvrir son pensée, tant qu'après une fête de Saint-Jean, il remit à son sénéchal le soin d'une chevauchée sur les Seines. La dame resta près de la reine, qui lui portait la plus tendre affection. Une nuit, le roi partageant la couche de sa femme, la rendit mère d'une fille qu'on dut baptiser sous le nom de Guenièvre. La reine avait, comme bonne dame qu'elle était, coutume de se lever la nuit pour se rendre dans la chapelle du palais, assister aux matines et aux autres offices qui précédaient la messe. La nuit même qu'elle eut conçu Guenièvre, elle se leva, s'en vint au lit de la sénéchale, pour l'avertir de l'accompagner. Mais la voyant profondément endormie, elle ne voulut pas la réveiller et s'éloigna, un psautier à la main. Le roi l'avait suivie des yeux et l'avait vue sortir seule de la chambre de la sénéchale. Aussitôt il se lève lui-même, éteint les cierges qui brûlaient d'une salle à l'autre et vient doucement partager le lit de la femme de Cléodalis. La dame se réveille, demande qui il est, tout effrayée. « Je suis le roi, » dit-il. « Tenez-vous quoi ? Un seul mot et vous êtes morte. » Elle se défendit pourtant longtemps de paroles, mais elle n'osa crier, si bien que le roi reposa près d'elle et la rendit mère d'une fille, peu d'heures après qu'il eut engendré de sa femme la première Guenièvre. À 9 mois de là et la nuit même que celle-ci vint au monde, la sénéchale se trouva prise des mêmes douleurs et mit au jour une fille qui n'était pas moins belle que l'autre Guenièvre et reçut le même nom. On ne les aurait jamais distingués si la fille de la reine n'avait eu, un peu au-delà des reins, une couronne royale parfaitement marquée. La princesse, dit ailleurs le romancier, était un peu plus grande et colorée que l'autre Guenièvre, mieux fournie de grands et beaux cheveux. Elle avait aussi meilleure langue, comme ne le cédant à personne en éloquence et en raison. Les deux jeunes filles furent élevées ensemble et ne se quittaient jamais. La reine de Carmélide étant venue à mourir, tel était l'amour du roi pour la sénéchale que, voulant empêcher Cléodalis de converser avec elle, il avait enfermé la dame dans un sien castel et l'y retenait déjà depuis 5 ans, lorsque Merlin, Artus et leurs compagnons arrivèrent en Carmélide. Les amis de Cléodalis, indignés de la mauvaise conduite du roi, ne manquèrent pas d'engager le sénéchal à lui rendre son hommage et à le défier. Mais il répondait qu'il s'en garderait tant que la guerre ne serait pas mise à fin, et, de fait, la honte que lui faisait le roi ne l'empêchait pas de le servir le mieux et le plus loyalement qu'il pouvait. Tel était le bon Cléodalis, telles étaient les deux demoiselles. La princesse Guenièvre, après avoir servi les trois rois, rendit à son père le même office. Quand ils eurent lavé, elle mit sur les épaules de chacun d'eux un riche manteau. Artus était de grande beauté. Il regardait volontiers Guenièvre, et la demoiselle disait entre ses dents « Heureuse la dame que si beau, si bon chevalier voudrait aimer. Honni a toujours celle qui les conduirait. » Les tables mises et le manger dressé, les convives prirent place. Les chevaliers de la table ronde s'assirent côte à côte des soudoyers inconnus, le roi Artus entre les rois Ban et Bohor. Léodagan se plaça à la gauche du roi Ban et ne tarda pas à tomber dans une profonde rêverie qui lui représentait tout ce que les vaillants inconnus avaient fait pour lui. Sa fille, tenant à la main la coupe d'or de son père, s'agenouille alors devant Artus et la lui tend. Artus la regarde et ne peut se défendre d'admirer encore plus sa beauté. C'était en effet la plus belle femme qui fût au monde. Elle avait le visage entièrement découvert, avec un chapelet d'or sur la tête, les cheveux tombant en longues tresses sur ses épaules et le long de ses reins, plus blonds et plus luisants que l'or le plus fin. Le visage fraîchement coloré, heureusement mélangé de blanc et de vermeil. Les épaules droites et flexibles comme un jonc, le corps gracieusement cambré, les bras grands et longs, les jambes droites et polies, les flancs grêles, les hanches basses, les pieds blancs et arrondis, les mains longues, blanches et molettes. Elle était toute de l'œil et en pur corps. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas le visage à demi caché sous la guimpe que les femmes portaient alors ordinairement. Ce sens est justifié par cet autre endroit où l'on décrit le costume nuptial de Guenièvre. Elle fut toute déloyée et avoua le plus beau chief que femme peut porter et fut vêtue d'une robe de drap de soie, etc. Que vous irais-je devisant ? Guenièvre avait en elle beauté, sens, débonnaireté, valeur, honneur et prouesse. Ne vous étonnez donc pas si le roi Artus la regarde avec complaisance, s'il suit le mouvement de ses mamelettes qui semblaient avoir la fermeté et les contours de belles pommes, s'il remarque sa chair plus blanche qu'aucune neige tombée et son juste en bon point. Il en est tellement surpris qu'il en laisse le manger, rougi, et détourne son visage, dans la crainte de laisser découvrir aux autres le fond de sa pensée. La demoiselle le presse cependant de boire. « Prenez la nef, sire d'Amoiseau, lui dit-elle, et veuillez me pardonner si je ne vous appelle d'autre nom, car je ne le saurais. Mais, s'il vous plaît, buvez et ne soyez pas timide au manger, car aux armes ne l'êtes-vous guère. Il y parut assez quand vous fûtes regardé par plus de 5000 qui ne vous connaissaient aucunement. » Artus alors se retournant vers elle, « Grand merci, belle pucelle, de votre service. Puisse Dieu me donner force et courage de m'acquitter envers vous. » « Sire, fait-elle, ce ne vous est pas à commencer. Vous en avez fait 20 fois plus que je ne le mériterai jamais quand vous avez arraché mon père des mains de ses ennemis. » Artus ne répond rien, mais elle, reprenant, « Vous avez encore fait plus quand, devant la porte et à l'entrée du pont, vous avez tué celui qui avait une seconde fois abattu mon père et quand, pour le remonter, vous vous êtes mis en aventure de mort. Sans vous, il ne serait pas rentré dans Carouèze. » Ainsi parle Guenièvre. Le roi Artus se tait, mais il prend la coupe, la vide et invite la demoiselle à s'asseoir. Trop longtemps déjà était-elle restée à genoux. Léodagan, son père, s'approcha pour le lui défendre. Quand les nappes furent ôtées, « Sire, dit le roi Ban au roi de Carmélide, je m'émerveille de ce que vous, que l'on tient si sage homme, vous n'ayez pas encore marié votre fille, belle et sage comme elle est, à quelques barons de haut parage qui vous aideraient à maintenir la guerre et garder vos domaines. Car il me semble que vous n'avez pas d'autre enfant et vous devez songer à ce que deviendra cette terre après votre mort. Sire, répond Léodagan, la guerre que me fait Rion depuis 7 ans ne m'a pas laissé les moyens d'y songer. Mais je puis dire que, si je savais un simple bachelier preux aux armes qui pût m'aider à soutenir le poids de cette guerre, je lui donnerais volontiers ma fille s'il la voulait prendre, et avec elle mon héritage. Je n'aurais en cela égard ni à la hauteur du lignage, ni à la richesse des domaines, et plût à Dieu qu'il en fût ce que j'ai en pensée. Elle aurait pour époux un jeune, bel et preux bachelier qui, si je présume bien, est encore de plus haut lignage qu'elle. » En l'entendant ainsi parler, Merlin et Ban se prirent à sourire. Ils devinaient la secrète pensée du roi, mais ils détournèrent la conversation et parlèrent d'autre chose, ce qui fit croire à Léodagan qu'il ne voulait pas entendre à ce qu'il eût souhaité. La demoiselle n'était pas moins attentive que son père aux marques de respect et de déférence que les deux frères rois et leurs chevaliers semblaient rendre à Artus, si bien qu'elle désirait déjà vivement de la voir à seigneur, bien que l'histoire dise que de toutes les femmes de la Bretagne, Guenièvre était la plus sage, aussi bien que la plus belle, et bientôt après la mieux aimée. Mais ici nous quittons cet agréable sujet pour suivre la lutte que les rois feudataires soutiennent contre les Scènes. Les romans de la Table ronde semblent avoir les premiers introduits dans la littérature moderne l'usage de ces récits entremêlés, interrompus et repris, auquel le divin auteur de l'Orlando Furioso nous a accoutumés et qui, tout en causant au lecteur une passagère impatience, concourent à l'agrément de l'ensemble. La poésie ni l'histoire ne nous offrent rien d'analogue chez les anciens, et dans les véritables chansons de gestes, on ne le rencontre pas encore. La raison est ici facile à saisir. Les gestes étaient destinés à être chantés ou déclamés à haute voix, non pas à être lus dans le silence du cabinet. Les auditeurs des gestes n'auraient pu s'accommoder de ces récits brusquement interrompus, précisément au point où leur attention se trouvait le plus intéressée. Il n'en était pas de même des livres formés à l'aide des anciens laits et faits pour être lus. Le romancier y pouvait à son gré commencer, laisser et reprendre plusieurs récits, de manière à les amener plus tard vers un centre commun. Or, quand nous n'aurions pas d'autre motif de reconnaître deux auteurs dans le livre de Merlin, il nous suffirait de remarquer que ces heureuses transitions, ces interruptions calculées ne se rencontrent ni dans la rédaction en prose du poème de Joseph d'Arimathie, ni dans la première partie du Merlin. Elles ne sont introduites que dans le Saint Graal et dans l'Artus, qui continue le Merlin. C'est donc au romancier, auteur de ces deux ouvrages, qu'il faut attribuer l'introduction de ce nouveau procédé, effet d'un art véritable dont l'histoire littéraire doit bien tenir compte. Les interruptions étaient presque toujours annoncées par la même formule. Mais attends-les, se lit compte cette histoire, et retourne à parler de telle autre. Ces mots ont fait donner le nom de laisse à chacune de ces parties de la narration générale. Et c'est ainsi qu'un jongleur se vante de savoir plus de 40 laisses, et de Gauvin, et de Tristan. Je ne suivrai pas notre romancier dans l'interminable récit de cette guerre des scènes. On peut la résumer en quelques mots. Chacun des rois feudataires, revenu dans ses domaines, sort de sa maîtresse cité, va à la rencontre des scènes, se voit contraint de céder le terrain jusqu'au moment où le roi voisin, averti à temps ou fortuitement arrivé, vient changer la face du combat et contraindre les scènes à tourner le dos à leur tour, non sans laisser bon nombre de morts sur le champ de bataille. Plus d'une fois aussi, le nombre des scènes augmentant à chaque nouvel effort, les rois bretons échappent à une déconfiture imminente par l'arrivée du jeune Gauvin, de ses frères et de ses cousins, que Merlin, sous divers déguisements, vient avertir du danger que courent ses princes. À l'heure de la tour de l'ogre, de Camelot ou du château d'Arondel, les jouvenceaux arrivent, mettent les scènes en complète déroute et ramènent en triomphe les rois dont ils ont été les libérateurs. Il est à croire que tous ces comptes rendus d'expéditions partielles et de succès plus ou moins disputés, qui ne changent pourtant rien aux conditions de l'agression et de la résistance, sont empruntés à de plus anciens laits bien connus des contemporains de notre romancier. Celui qui aurait inventé ces récits au XIIe siècle aurait pris soin de les rattacher plus exactement à la légende d'Artus, qu'il n'aurait pas interrompu pour se mettre à raconter des combats auxquels le héros ne prend aucune espèce de part et dont aucun lecteur ne semblait réclamer la confidence. Tout le profit que les plus robustes lecteurs en tireront sera de faire plus ample connaissance avec des personnages qui, plus tard, occuperont mieux la scène, tels que Gauvenet ou Gauvin, le premier de tous. Ses frères, Guire, Gaëriette et Agravin, Galéchin, le fils de Nôtre, Sagremor, le valet de Constantinople, les fils Didier de Galles, Yvonnet ou Yvain le Grand et Yvain la Voutre, Adraguin le Brun, Dodinel le Sauvage, Yvain au Blanchemain, un quatrième Yvain de Lionel, Gauzouin d'Estrangor, Queue d'Estro et Caïdine le Petit.